le corps peut-être comme articulation, c'est surtout la chair et le monde qui vont nous occuper. C'est déjà un vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle. Chair et monde, vous connaissez les distinguos que l'on trouve en particulier chez Saint Jean. Nous sommes dans la chair, mais nous ne devons pas vivre selon la chair. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et je pense que ces distinctions, quelquefois, peuvent nous déconcerter ou en tout cas être un petit peu questionnantes. Qu'est-ce que l'on entend lorsqu'on parle de la chair ? Vous savez que le mot « chair » dans notre Occident chrétien a même pris souvent des relents de confessionnal, j'ai envie de dire, avec le péché de chair, et en plus par une espèce d'homophonie, faire bonne chair en français qui n'a aucun rapport, mais tout ça nous met du côté d'une certaine compréhension de la chair festive et épicurienne, le péché de chair étant depuis un certain nombre de siècles assimilé à la sexualité en Occident, probablement à cause d'une lecture un peu biaisée de saint Augustin. En tout cas, pour saint Paul, qui est à l'origine de cette expression, la chair de péché, le péché de chair et la chair de péché, la chair, c'est tout ce qui nous conduit au péché, ce sont tous les péchés, c'est l'égoïsme, d'une certaine manière. Voilà. Donc, le monde, quant à lui, vous savez sans doute que dans l'Antiquité, un certain nombre de spéculations cosmologiques, cosmogoniques, entrent en concurrence les unes avec les autres. Dans ce monde proche-oriental dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui occupe les devants de la scène médiatique, l'astrologie, les fameux mages de l'évangile de Matthieu, qui sont des astrologues, qui sont nés dans ce milieu dont on doit dire à quel point il était savant, hein, le monde du Proche-Orient ancien, de la Babylonie, la Chaldée, un monde extrêmement brillant par bien des aspects, et le petit peuple hébreu face à ces grands empires assyriens, chaldéens, babyloniens, égyptiens, était peu de chose, vous vous en doutez, c'est David devant Goliath, les grandes capitales impériales comme Ninive ou Babylone ou Persépolis à l'époque perse et d'autres villes ou évidemment les villes égyptiennes, le petit peuple hébreu pesait de peu de poids face à tout cela. Or, il a proposé lui aussi sa conception du monde, sa vision du monde, comme on dit. Et c'est ce que nous allons voir ce soir avec, évidemment, le grand poème de la Genèse que nous avons choisi. Alors, j'avais écrit un petit texte introductif en préambule de notre année pour monter à bord et puis pour, effectivement, cerner un peu l'ambiguïté des deux mots. La chair, c'est à la fois notre condition humaine, c'est notre fragilité, c'est... la voix de toute chair, comme dit souvent la Bible, mais c'est aussi une inertie, il y a une inertie mystérieuse qui est inscrite dans la chair et qui peut nous couper de la vie de l'esprit. Donc cette opposition chair-esprit, on la retrouve chez saint Paul. Donc la chair, c'est notre condition humaine, donc ça c'est la vision positive, mais c'est aussi notre propension à nous replier sur nous, et donc on le verra pendant toute l'année. N'oubliez pas que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui s'incarne, donc un Dieu qui vient dans la chair, un Dieu qui se fait chair, et que donc la chair a aussi évidemment des connotations tout à fait positives. Peggy, le poète Charles Peggy, dit tout ce qui est charnel et spirituel, c'est-à-dire que le spirituel est lui-même charnel. Pour le chrétien, à un moment donné, sur notre itinéraire spirituel, nous rencontrons ces deux voies, le charnel et le spirituel, et nous avons à rétablir la focale, j'ai envie de dire, et à découvrir que le charnel et le spirituel doivent se rencontrer, qu'il n'y a pas de spirituel en dehors du charnel, sinon c'est un spiritualisme confortable, éthéré, un peu gnostique, qui répond peut-être à des besoins de sens, de signification, mais qui risque toujours de ne pas être chrétien. Voilà. Par ailleurs, le monde, être dans le monde sans être du monde, ce mot est aussi porteur d'une ambivalence. Il y a le monde à qui Dieu dit oui, le monde qu'il approuve, car il vit que cela était bon, et il y a le monde qui dit non à Dieu, qui refuse Dieu. Et c'est le monde mondain, le monde selon Saint Jean, le monde de la théologie souvent. Donc il y a le monde que Dieu approuve, à quoi il dit oui, et le monde qui, par cette inertie que je décrivais, est tenté de dire non à Dieu. Alors, est-ce que Dieu dit non à ce monde? Voilà, c'est toute cette dialectique qu'il va falloir que nous apprivoisions pendant cette année. Voilà, je pense que les textes que nous avons choisis nous permettront d'aborder ces deux notions de chair et de monde de manière peut-être un peu plus claire, tout en sachant qu'il nous faut naviguer un peu dans ces significations plurielles.
Oui, alors merci beaucoup Jérôme d'abord de nous accueillir donc à Saint-Eustache pour cette soirée. Alors, c'est vrai que moi je pense que c'est intéressant de prendre ces thèmes parce qu'on a une conception, j'allais dire, du monde, mais aussi de l'humain et puis de Dieu, qui n'est pas seulement biblique, mais qui est aussi profondément pétrie de philosophie grecque. Et donc nous sommes de ces deux mondes-là, finalement, et biblique et grec. Et on ne sait pas très bien, finalement, parfois, d'où vient, je veux dire, les a priori, la pensée que nous avons, en particulier sur ces notions. Je pense que, chemin faisant, à travers ces textes bibliques, nous verrons peut-être une conception de la chair et du monde qui peuvent nous étonner par rapport à ce que l'on pense trouver peut-être dans la Bible, beaucoup moins négatif. Et donc tu disais le monde qui peut se rebeller contre Dieu, oui, c'est notre monde, mais c'est un monde qui est aimé et pardonné. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de rejet du monde, il n'y a pas de négativité du monde, ni de la chair d'ailleurs, à mon avis, dans la pensée biblique. Ce qui est mauvais, c'est le selon la chair, ou
Je
selon le
décrivais les
monde.
préjugés,
Oui.
d'entrée qu'on a
Voilà, tout
sur
à
le...
fait.
Voilà.
Oui. Alors ensuite, le corps, moi, ça me semble une notion qui est fondamentale dans cette affaire, parce que si vous voulez, la chair, ça fait partie un peu de ce qu'est l'homme. Mais finalement, à travers l'idée du corps, il y a quand même l'idée de très personnel, c'est-à-dire que nous sommes, le corps dessine un peu un espace qui est le nôtre, individuellement, et un espace où nous sommes. Où es-tu, dit Dieu à Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Ben, je suis dans mon corps, je suis mon corps. Et là aussi, je crois qu'il y a quelque chose à vraiment redécouvrir, c'est que pour les Hébreux, nous ne sommes pas, comme pour les Grecs parfois, un corps vil, un corps fait de boue. Il est fait de boue aussi, notre être, oui, mais on n'est pas simplement un vase d'argile dans lequel on verserait une âme pure, qui serait une âme éternelle, si vous voulez, avec l'idée, l'espérance, la recherche personnelle de libérer notre âme de notre corps. Donc il y a une vision du corps, à mon avis, qui est très importante à redécouvrir à travers ces notions de chair et de monde, mais aussi même la notion de corps à travers la Bible elle-même, d'autant plus que la notion de corps est une notion qui est extrêmement importante en notre siècle. À travers des questions comme la santé, comme la beauté, l'image du corps. Comme aussi j'allais dire, le post-humanisme ou le transhumanisme, si vous voulez, de faire une humanité améliorée, donc avec un corps qui
Augmenter.
augmenté par des machines, par de l'intelligence artificielle ou par différents artifices. J'ai bien mis des, on a bien mis pour un certain nombre d'entre nous des lunettes pour mieux voir. C'est déjà un pas de plus dans ce sens, effectivement. Donc je crois que ces notions sont quand même importantes pour se réconcilier, j'allais dire, peut-être autrement avec son corps, avec l'individualité aussi, avec ce monde, et puis aussi avec cet autre corps qu'est l'humanité, qu'est le corps du Christ, si vous voulez. Donc là, on retrouve à la fois, à travers cette idée du corps, une exaltation de la personne humaine et puis d'une humanité réconciliée avec cette diversité et cette unité. Donc toutes ces questions, à mon avis, elles vont traverser nos lectures et méritent vraiment, je crois que ça peut être très vivifiant de redécouvrir ces notions à travers la Bible. Cela dit, on n'est pas forcément d'accord avec les notions de chair, de corps ou de monde qu'on va trouver ici ou là au travers de notre itinéraire. Par définition, le texte biblique est pluriel. Ce qu'on va trouver ici sera peut-être dit autrement, nuancé, contredit un peu plus loin dans la même Bible. Et puis après tout, la Bible nous est donnée pour que nous l'interprétions, que nous la fassions nôtre. Ça, ce n'est pas du libéralisme du 21e siècle qui dit ça, si vous voulez. Déjà, dans Ézéchiel, on tend un rouleau du livre à Ézéchiel. Et l'ange lui dit, ce rouleau, mange-le, finalement, digère-le. Et quand le Christ nous dit qu'il faut manger son corps, voilà, c'est pour son corps qui est parole, son corps qui est évangile, son corps qui est la présence du royaume, qui est la parole. Bon, ça veut dire qu'il faut la manger pour la digérer, la faire nôtre. Donc ce texte, encore plus, si vous voulez, on peut le mâchouiller, le ruminer, le faire nôtre, et qu'il vienne nourrir une espérance nouvelle, une nouvelle présence au monde peut-être, une nouvelle façon de vivre notre corps peut-être, et puis aussi peut-être les différentes dimensions de ce corps.
Alors, avant de lire, juste peut-être effectivement pour faire un point et pour clarifier le vocabulaire, puisque tous les deux nous venons d'en parler, finalement, au plan culturel, nous héritons de deux couples de notions, deux couples conceptuels, si j'ose dire. Donc, d'un côté, corps et âme, et de l'autre, chair et esprit. Nous sommes habitués à ça, toute une littérature chrétienne, si vous connaissez les romans de Mauriac, de Julien Green, etc., c'est toujours la lutte entre la chair et l'esprit, c'est assez classique. Alors, corps et âme, on va dire, même si évidemment il y aura forcément des traductions qui nous contrediront, mais corps et âme, on va dire que c'est une distinction qui est grecque, qui vient de la philosophie grecque, essentiellement de Platon et des néo-platoniciens, qui effectivement sépare le corps et l'âme. Le corps est du côté du monde matériel, donc corruptible, et donc du monde de la caverne, si vous voulez, le monde du sensible. Et l'âme est la partie qui est capable de saisir le monde des idées, et donc l'âme est du côté du monde de l'intelligible. Donc comme il y a une séparation entre le sensible et l'intelligible, vous voyez, soma, sema, comme disent les Grecs, c'est-à-dire le corps est un tombeau. C'est un jeu de mots en grec pour dire que, finalement, dans la dialectique ascendante, pour pouvoir accéder à la vérité, puisque l'homme est animé d'une quête de vérité, pour accéder au bien et à l'un, il faut se libérer de son corps. Voilà. Alors, le christianisme a été très marqué par le néo-platonisme, qui était quasiment une religion. Des gens comme Plotin étaient des gourous. Hein. C'est des gens qui ont une vision puissante et religieuse. Les disciples de l'académie de Platon sont non seulement des étudiants, mais ils ont un mode de vie qui nous surprendrait aujourd'hui. C'était une religion. Voilà. Alors, corps et âme, c'est de ce côté. Corps, soma en grec, psyché, l'âme, voilà. Chair et esprit, qui est un couple de notions que reprend saint Paul, c'est typiquement hébreu, c'est typiquement sémitique. Et ce sont deux modalités de vivre le corps. Quand on parle de la chair et de l'esprit, la chair, c'est pas le corps, et l'esprit, c'est pas l'âme, hein. Or, on a trop souvent entendu cette distinction chair-esprit à travers les mots corps et âme. C'est-à-dire qu'on a fait une lecture de saint Paul qui était une lecture grecque, platonicienne, si vous voulez. Or, c'est une erreur, parce que la pensée sémitique ne quitte jamais le corps. Elle ne connaît que le corps. L'anthropologie sémitique ne pense pas le vrai, le beau, le bien, au-delà du monde matériel. Et il y a une continuité entre la transcendance de Dieu et l'univers qu'il a créé. Et il n'y a pas du tout cette séparation. Donc, quand on parle de la chair, c'est une manière de vivre son corps, charnel, donc de vivre selon les impulsions du corps. Et quand on dit l'esprit, c'est une manière aussi de vivre son corps, c'est-à-dire de vivre ce corps de manière spirituelle. Voilà. Donc c'est important parce que on risque de ne pas se comprendre, effectivement, si on croit que ces deux couples se superposent parfaitement. Ils ne se superposent pas. Or, évidemment, saint Paul le premier, qui écrit en grec, qui évolue dans un monde grec, qui cherche à séduire aussi le monde grec, hein, pensez à son discours sur l'aréopage que l'on voit dans les Actes des Apôtres. Saint Paul essaye par moments d'helléniser un peu sa pensée, mais sa pensée reste profondément juive, profondément sémitique. Donc on ne quitte pas le corps. Et je dirais que notre itinéraire biblique cherche à nous réconcilier avec notre corps. Hein. On ne fait pas du New Age, mais c'est quand même, il y a une lecture de la Bible où on peut découvrir on doit découvrir qu'on peut vivre notre corps, notre incarnation, de manière spirituelle. Voilà. Alors nous allons commencer par un texte très beau, tellement beau qu'on a l'impression de le connaître par cœur, et c'est évidemment le début. Commencement, c'est la traduction œcuménique de la Bible. En hébreu, Bereshit, avec toutes les spéculations qu'on peut faire sur la lettre Bet, qui n'est pas la lettre Aleph, donc l'Aleph est absent. Donc on est déjà presque avant, ou en aval du commencement. Bereshit, vous reconnaissez peut-être phonétiquement Resh, Rosh, que vous avez dans Rosh Hashanah, que nous avons fêté il y a quelques semaines. Rosh Hashanah, ça veut dire la tête de l'année. Anna, c'est l'année. Hein. Shana, pardon. Shana Tova, bonne année. Donc Rosh Hashanah, donc Rosh, la tête, Bereshit, même chose, ça veut dire au début. Hein, au début. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce texte que nous allons lire est une révolution dans le monde antique et dans le monde proche-oriental. Pour les cosmogonies orientales, il n'y a pas de début. Hein, le monde est sans début. Le monde est éternel, infini. Voilà. Donc ici, il y a un début. Et vous allez voir qu'en fait, ce texte, qui pour nous est un texte fondateur, en fait, et c'est ça que je voudrais que vous perceviez ce soir, c'est un texte assez provocateur, ne serait-ce que par le premier mot, avec l'idée qu'il y ait un début, hein, ex nihilo, qu'il y a un commencement. Ça va contredire toute la structuration mentale d'un homme du Proche-Orient de l'époque. Alors juste un mot, c'est que vous le savez peut-être, les textes du Premier Testament sont souvent réécrits à partir de documents différents. On est très prudent sur ces questions aujourd'hui. L'hypothèse documentaire qui, au XIXe siècle, laissait entendre qu'il y avait quatre documents, un document éloïste, un document yaviste, un document sacerdotal, un document deutéronomiste. On est beaucoup plus prudent parce qu'on pense qu'il y a eu un processus de réécriture au moment du retour de Babylone, donc au VIe siècle, grâce à Cyrus le Grand, qui a fait rentrer, en tout cas l'élite du peuple juif, à Jérusalem. Mais vous allez voir quand même que dans ce récit de la Genèse, il y a quand même clairement deux documents. Un document plutôt de type sacerdotal, qui est le long poème que nous allons lire, et un document plutôt yaviste, moins didactique, qui est le deuxième récit de la création. Est-ce que
Alors, bon,
tu veux peut-être dire quelque chose?
Tu disais que c'était une création ex nihilo, c'est quelque chose qui est très très discuté. Il y a beaucoup de, aussi bien de rabbins que de théologiens chrétiens qui disent qu'il n'est pas question une seconde d'ici d'une création ex nihilo, que Dieu est source de commencement, certes, mais qu'on peut le voir de deux façons différentes. Au commencement, donc, voilà, dans un commencement, on peut le lire, voilà, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Alors la question, est-ce que c'est, la terre était informe et vide, par exemple, est-ce que c'est avant la création de Dieu ou est-ce que c'est après? Alors les théologiens, aussi bien donc juifs que chrétiens, disent que ce serait quand même un peu bizarre que Dieu il commence par créer quelque chose qui est en vrac, si vous voulez, que le résultat de cette opération de création, ce soit une terre en vrac et en chaos, comme si Dieu pouvait être source de chaos. Donc aujourd'hui, j'allais dire, on penserait plutôt que ce texte, c'est ce que tu disais avec l'histoire du Bet et pas du Aleph, c'est que ça ne dit rien sur ce qui se passe avant cette création, mais il dit que Dieu est source de nouveauté et de commencement, et que, ben voilà, finalement, il fait passer du chaos à quelque chose qui est bon, et que c'est à cela que nous sommes invités à reconnaître. Alors là, évidemment, c'est pas un livre d'histoire, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. C'est pas du tout un livre d'histoire, donc ce n'est pas du tout de la science. Aller mettre ça en parallèle avec ce que peuvent nous dire les scientifiques, le Big Bang ou je sais pas quoi. C'est une façon très poétique, si vous voulez, je dirais très créatrice, c'est le cas de lire cette page, parce que c'est absolument pas de ça dont on parle. C'est comme quand dans les, je sais pas quelle opération psychologique, on vous montre des taches d'encre et on y reconnaît un papillon, si vous voulez. On a le droit d'y reconnaître un papillon, mais il n'y avait pas un papillon à la base, puisque c'était simplement de l'encre qui était jetée sur une feuille. Là, c'est pareil, on peut y voir des parallèles avec la création de l'univers, la science, mais c'est pas du tout de ça dont on parle. Il faut voir qu'il s'agit ici de théologie ou d'anthropologie, il s'agit de, on parle de foi, on parle de conversion, on parle de cheminement proposé à l'homme. Et donc quand on dit, par exemple, dans le commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ça présente déjà un petit peu deux univers, finalement, un univers de la transcendance et puis un univers de ce monde dans lequel, je veux dire, ce monde matériel. Ça parle aussi de ce que tu disais, de la chair et de l'esprit, finalement, que nous sommes faits par... nous sommes des animaux, on va le voir dans le texte, nous sommes des animaux comme les autres animaux, et en même temps, il y a quelque chose qui est différent, quoi, qui est un appel, une vocation personnelle qui fait que nous ne sommes pas que des animaux et que nous avons une vocation personnelle. Peut-être qu'il ne faut pas se mettre du coup en disant... l'être humain est forcément le sommet de la création selon ce texte, c'est très discutable. Ce texte, il est écrit pour l'humain et peut-être que si le texte était écrit pour les fourmis, eh bien, il déploierait la vocation particulière de la fourmi dans la création. Donc, il faut le voir comme un récit qui nous parle de la place de Dieu, de ce monde dans lequel nous sommes, et puis de la place de l'humain dans le monde et la vocation de l'humain dans le monde. Et puis, quand on parle de création du ciel et de la terre, on parle aussi de la création de la personne humaine en particulier, de l'homme individuel qui est à la fois, je vais dire, du ciel et de la terre, et qui est chaos aussi, et dans lequel on peut commencer, Dieu peut commencer par sa parole à insuffler quelque chose qui est de l'ordre d'une lumière, d'un sens, d'une capacité d'intelligibilité du monde dans lequel nous sommes. Enfin bref, c'est de ça dont on parle, si vous voulez. C'est absolument pas un livre de science ni d'histoire. C'est un livre, c'est une prédication. Voilà. C'est une prédication, c'est un livre de. C'est un texte de philosophie. C'est un texte de. C'est un poème. C'est un poème d'amour. Mais c'est de ce mode-là, si vous voulez, qu'il faut, à mon avis, chercher dans le texte. Et donc, bien entendu, s'y reconnaître à chaque ligne, j'allais dire. Alors, est-ce qu'on peut lire ce texte?
Oui,
peut-être d'une. Enfin, il faut le lire un peu rapidement, parce que sinon, on y sera encore. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce texte
Comme si on y était.
Comme si on y était. Ah, merci beaucoup. Ah.
Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit, que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu, et que le continent paraisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre le continent. Il appela mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre se couvre de verdure, d'herbe qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et séparer la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit, que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre, face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers, et que l'oiseau prolifère sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit, « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. » Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour.
Continue. Peut-être encore les.
Oui,
le
pour,
petit
la, pour la fin, pour le septième.
Le petit bout du chapitre
de Shabbat.
Bon, le ciel, la terre et tous les éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, bien sûr, Marc, c'est un poème... C'est un préambule qui cherche plus notre conversion, qu'à faire du concordisme. Et on s'est épuisé au 19e siècle. Rassure-toi, je ne vais pas le faire.
Non, mais on a le droit.
Mais à trouver des concordances entre les différentes aires géologiques et les différentes journées. Bien sûr, c'est un poème du 6e siècle. Voilà. Simplement, quand même, les scribes inspirés, comme on dit, le mettent au début de la Bible. Donc, ça nous parle quand même du début. Alors, moi, je pense que c'est toujours le problème avec la Bible. C'est que ça n'est ni la science positive, ni une mythologie pure. C'est toujours un tressage des deux. C'est ça qui est compliqué. Sinon, on rejoue éternellement la querelle d'Antioche et d'Alexandrie. Vous savez, l'école d'Antioche avait tendance à avoir une lecture littérale de la Bible, et l'école d'Alexandrie, Origène, par exemple, avait une lecture uniquement allégorique. Or, si on prend l'Évangile, on sait très bien qu'il y a de la mythologie dans l'Évangile, mais il y a aussi un noyau dur historique. Sinon, on n'arrive pas à parler à l'homme contemporain. Alors ici, je ne veux pas dire qu'il y a un noyau dur historique dans le descriptif. Évidemment, je n'y étais pas. Mais il y a quand même le souci, je pense, de la part des auteurs bibliques, de montrer que Dieu, tu l'as dit d'ailleurs, initie quelque chose.
Ben oui.
Qu'il crée. Alors évidemment, à partir de quelque chose qui est informe et vide. Vous savez, en hébreu, c'est le fameux tohu vevohu, hein, tohu bohu, ça vient de là. Donc effectivement, il y a du tohu bohu et Dieu fait passer de l'informe à un monde créé où il sépare, il distingue, etc. Il distingue pour unir. Et évidemment, on voit bien qu'en plus, c'est un poème, il y a un couplet, il y a des incohérences. Personne ne trouve étrange que le soleil soit créé après la lumière, par exemple. Comme s'il y avait une lumière cosmique, et puis ensuite le soleil est créé. Bon, évidemment, on voit bien que c'est presque une comptine, etc. Mais l'accent est mis, il eut un soir, il eut un matin, on passe quand même de la nuit à la lumière. Il y a vraiment un mouvement initiatique ou initiateur. Alors évidemment, quand je dis ex nihilo, c'est pas bien, parce que ex nihilo, ça vient de la métaphysique. Il ne faut jamais parler de métaphysique, c'est surtout pas de la métaphysique. Mmh. C'est comme lorsqu'on dit que pour Exode 3, quand il dit « je suis celui qui suis », on dit « ah, il dit qu'il est l'être ». Non, il n'a jamais dit qu'il était l'être. Donc il ne faut pas faire de la métaphysique, il ne faut pas plaquer effectivement des concepts philosophiques dans la Bible. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, on nous parle du début de quelque chose.
Dieu est source de commencement.
Et donc l'univers n'est pas uniquement cyclique, répétitif, tragique. On n'est pas enfermé, on n'est pas pris au piège dans un monde qui n'a pas d'histoire. Parce qu'en disant qu'il y a un début, ça veut dire qu'il y a une histoire.
Oui.
Qu'il y a quelque chose qu'on peut raconter.
Non, c'est tout à fait ça que je disais, effectivement. C'est que Dieu est source de commencement. C'est ça que ça veut dire. Et donc, dans notre existence aussi, voilà, je crois qu'effectivement, Dieu est source de vrai commencement. Et que c'est ça dont parle en particulier ce texte. Alors, à mon avis, puisqu'on parle du monde, là, ça apparaît, en fait, au début, parce que la façon de parler du monde, dans la Bible hébraïque, on dit le ciel et la terre, en fait. Cette expression-là est pratiquement la seule qui existe pour parler du monde. On dit le ciel et la terre, ça veut dire le monde. Et donc ça, je trouve que c'est déjà significatif. C'est que pour l'auteur de ce texte, donc effectivement, au 6e siècle avant Jésus-Christ, mais qui reprend donc l'épopée de Gilgamesh qui a 1000 ans, 1500 ans plus vieille, et puis peut-être des textes d'avant, qu'on a d'ailleurs dans notre annexe au Louvre, en fait. Hein. On a des tablettes cunéiformes où on voit des textes qui sont à l'origine, si vous voulez, c'est de la rédaction de ce texte-là, et qui ont 1500 ans plus vieux. Mais on voit ici d'abord qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il est bon, il n'y a pas un Dieu méchant et un Dieu bon. C'est-à-dire, le Dieu méchant, il y a un retour du Dieu méchant qui arrive très fort à travers le diable et les démons. Donc c'est une projection, à mon avis, de ce dualisme qui est à l'origine de ce texte. Il n'y a qu'un seul Dieu et il est bon, il est source de nouveauté et il est source de bonnes choses. Mais quand on nous dit, voilà, Dieu crée le ciel et la terre, pour eux, le monde est à la fois céleste et terrestre. Alors ça, je crois que c'est une notion du monde qui est intéressante, qui est donc non purement matérialiste. Le monde n'est pas que la matière, n'est pas que cette planète, finalement. Et ça, c'est valable aussi pour l'humain, si vous voulez. L'humain il est dans ces deux dimensions. Chaque personne humaine est un monde, dans un sens, avec dimension de ciel et de terre, une dimension, on pourrait dire, de, peut-être d'idéal et puis d'intendance, je ne sais pas comment dire, de gestion de sa vie animale, voilà. Et finalement, Dieu aime les deux, et Dieu est source des deux. Et finalement, on peut retrouver à connaître Dieu, et en lisant ses traces dans le ciel, j'allais dire, dans le spirituel, dans l'idéal, dans l'élevé, dans la transcendance, dans le non-matériel, et dans le matériel, dans la beauté de la création, dans ce qui est beau dans la création, parce qu'il n'y a pas que du beau, il y a du bon, et puis il y a du chaos qui est encore à l'œuvre. Il faut voir, à mon avis, ce récit, particulièrement les deux versets, pas comme un commencement, au sens où la suite des textes est la suite de ces deux premiers versets. Ces deux premiers versets, c'est finalement un résumé de toute la Bible, dans un sens, comme bien souvent dans les textes bibliques. Les premiers mots sont la table des matières, sont le projet du texte. Oui, c'est bien ça, le projet de Dieu, je pense, et il est en cours encore. Dieu continue à être créateur et continue à faire cette mise en ordre du chaos. Et donc là, on nous met en scène, au lieu de mettre un Dieu bon et un Dieu méchant, avec des anges de lumière et des anges de ténèbres, on nous montre un Dieu, finalement, qui est à l'œuvre, qui crée le ciel comme la terre, qui fait reculer le chaos. Mais c'est même plus sympa que ça, si vous voulez, parce que le souffle de Dieu, donc c'est le Saint-Esprit, on dirait, dans la théologie chrétienne, peut-être, la rouard de Dieu, c'est féminin d'abord. Alors là, ça peut sembler le souffle, c'est encore assez masculin. Et puis planer à la surface des eaux. Alors effectivement, Dieu se rend présent par l'Esprit à la surface de l'abîme, à la surface du chaos, à la surface de ce monde. Et déjà, il se dit là quelque chose, si on veut le lire au sens spirituel, si vous voulez, quelque chose de... J'allais dire, ben nous, on le lit ces textes avec des lunettes en forme de Christ, si vous voulez, de croix. Donc on y lit déjà le Christ qui se fait compagnon, finalement, de nos douleurs, de notre péché, du chaos de notre existence. On y voit déjà le pardon, on y voit déjà cet accompagnement du Christ dans notre existence, un peu marquée par le chaos, mais déjà, on peut y voir aussi, le souffle de Pentecôte, c'est-à-dire un souffle qui plane à la surface des eaux, donc un souffle qui se rend présent à notre être pour nous donner vie, pour mettre en ordre notre existence, pour faire surgir du neuf dans notre existence alors que nulle espérance n'était possible. Et puis même planer, paraît-il, c'est un mot qui veut dire aussi couver, comme une poule couve ses poussins, quoi. Et donc c'est très occulté. Je me souviens, j'avais fait une prédication sur la bénédiction de Joseph par Jacob, c'est à la fin de la Genèse, et on y voit un dieu Shaddai. Et alors je disais que pour beaucoup de théologiens, le dieu Shaddai, ça veut dire le dieu aux deux mamelles, aux deux seins, un dieu très féminin qui allaite son enfant. Et ça, c'est des images qu'on retrouve de temps en temps dans la Bible. Il y a des gens qui ont été épouvantablement choqués par l'idée d'un dieu qui allaite ses enfants, d'un dieu mère, finalement. Mais ici, c'est pire que ça, c'est un dieu poule, c'est un dieu maman poule, quoi, si vous voulez. Voilà. Mais ça se retrouve, Jésus lui-même cite ce passage, finalement, en disant « Je suis comme une poule qui voulait rassembler ses enfants, ses poussins sous ses ailes. » Donc l'idée du dieu maman poule, je trouve c'est très touchant, mais ça, c'est dit pour le monde, mais c'est dit pour nous aussi, si vous voulez, Dieu qui nous considère comme un poussin, avec son souffle qui veut s'incarner en notre être et qui vient à la surface de notre chaos, de notre abîme, de notre ténèbre, de notre être, de notre terre, de notre animalité, finalement, informe, chaotique et vide de sens, peut-être. Je trouve que c'est... Bon, c'est extrêmement... c'est un texte qui, en deux lignes, dit le projet de la Bible tout entière, finalement. Et ça, je trouve qu'il s'y dit énormément de notre monde et de ce Dieu qui est source de nouveauté.
Moi, je vois un albatros un peu.
Tu vois pas une poule.
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Oui. Puis il y a aussi un poème de Verlaine, ah, très beau. Mon amour le couvre à des flots, etc. Ouais. C'est... Alors, je parlais de textes un peu provocateurs, eu égard à la toile de fond, qui est quand même ce patrimoine culturel commun, ce fond commun du Proche-Orient ancien. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, des luminaires, c'est des lampadaires, en fait, ce sont des instruments. Il ne faut pas oublier que, pour les Babyloniens, et puis pour toute une tradition, d'ailleurs, le monde... qui est au-delà de la Lune, est un monde éternel. Et non seulement c'est un monde éternel, alors que notre monde infralunaire est un monde soumis au devenir, à l'instabilité, mais non seulement il est éternel, mais pour les Babyloniens, les astres sont des dieux. Hein. Quand on dit...
Mars.
Quand on dit Sabaoth, d'ailleurs, hein, Sanctus Deus Sabaoth, le dieu Sabaoth, Adonai Sabaoth, c'est le dieu des armées, c'est bien les armées célestes. Et on parle des étoiles, ce n'est pas des armées imaginaires, c'est les étoiles. Donc, présenter les étoiles ici comme finalement de simples luminaires qui s'allument, comme l'allumeur de réverbère de Saint-Exupéry, c'est énorme d'une certaine manière. Ça veut dire qu'on a là un texte qui est une des premières étapes dans ce qu'on a appelé par la suite... d'un gros mot d'ailleurs, le désenchantement du monde. Le désenchantement du monde, c'est ça. On n'a pas attendu Marcel Gauchet et puis tout un courant philosophique pour parler du désenchantement du monde. Alors maintenant, on dit parce qu'il faut réenchanter le monde, réenchanter l'école aussi, j'ai appris ça aujourd'hui. Mais on ne réenchantera rien du tout parce que d'une certaine manière, le désenchantement, c'est pas seulement la perte des illusions et puis... un monde qui ne va pas bien. Le désenchantement est inscrit dans le judéo-christianisme. Le monde n'est plus un monde animiste, n'est plus un monde païen, n'est plus un monde du printemps de la création où les sources sont des nymphes, et où les arbres sont habités par des esprits, etc. C'est un monde qui est vidé de sa dimension païenne, de ses forces élémentaires, etc. C'est assez banal, hein, j'ai l'impression de faire du Renan en disant ça, mais je pense que quand même, ce poème aussi, certes, c'est un poème cosmique, sublime, lyrique, mais c'est aussi un poème de désenchantement. C'est-à-dire qu'il ne faut plus se tourner vers une pierre ou vers une source avec l'idée d'y voir la trace d'un dieu ou quelque chose qui aurait quelque chose à nous dire. Non, le monde est vidé, d'une certaine manière. Il n'y a plus qu'un dieu. C'est incroyable. On pense d'ailleurs que cette monolâtrie et ce monothéisme, Israël en a fait l'expérience en exil. Hein. En exil, parce que l'élite religieuse, les prêtres du temple, les Kohen, les Kohanim du temple, lorsqu'ils se sont retrouvés à Babylone, face à Marduk, qui est le grand dieu babylonien, El Shaddai, malgré ses mamelles, voilà, avait été vaincu. Parce que dans la géopolitique de l'époque, c'est quand même ça. On est assez basique, assez binaire. Donc il a fallu un effort religieux extraordinaire pour découvrir que El Shaddai ou Adonai n'était pas seulement le dieu de la tribu, mais était le dieu créateur de l'univers. Et donc c'est ça qu'ils disent là, c'est leur émerveillement devant un dieu transcendant qui n'est plus seulement le dieu du petit peuple, parce que probablement au VIe siècle, il y avait des traces encore de monolâtrie, c'est-à-dire c'était le dieu du peuple hébreu, mais ce n'était pas le dieu des autres, ce n'était pas le dieu des goyim, ce n'était pas le dieu des nations. C'est intéressant parce que c'est d'ailleurs l'épître de Paul de demain. Qui dit dans l'épître aux Romains, mais Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il est aussi le Dieu des Goyim, le Dieu des Goyes, des nations. Et là, au fond, c'est un texte qui s'adresse aussi, c'est un texte de première alliance, en amont de l'alliance avec Abraham, et a fortiori de l'alliance avec Moïse. C'est une alliance universelle, c'est l'alliance adamique, c'est l'alliance avec tout homme. C'est une alliance qui s'adresse à tous et où on dit, voilà, le Dieu d'Israël est le Dieu de l'univers. Mais du coup, il n'y a plus de petits dieux, il n'y a plus de nymphes.
Alors, il y a peut-être autre chose qui est assez polémique là-dedans, en particulier par rapport, finalement, par rapport au monde. C'est que dans certaines pensées, l'âge d'or est derrière, en fait, est dans le passé. Alors que là, on le voit, l'âge d'or, il est plutôt dans l'avenir. Il y a une construction progressive qui, de couche après couche, fait que le monde devient avec des bonnes choses, comme la lumière, comme... Donc il y a sept fois le mot bon, et le dernier, c'est même très bon. Donc donc à la fin du chapitre 1, il y a, voilà, Dieu voit, c'était très bon. Et donc il y a là un projet d'aller vers le très bon. Alors bien sûr, il ne faut pas rétablir finalement cet âge d'or dans le passé, en s'imaginant que ce texte parlait du passé, et puis qu'ensuite il y a la chute, et qu'avec la chute, l'homme a pourri, si vous voulez, cette merveille de perfection que Dieu aurait créée. Non, il s'agit, à mon avis, d'un projet global de la Bible, un projet global pour l'humanité de chacun, un projet global auquel nous sommes invités à participer, à collaborer, à être co-ouvriers, comme le dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Ou alors, comme dit Jésus, je crois que c'est dans le chapitre 9, il dit « Il faut que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Donc, nous, le Christ, et puis nous tous, tant qu'il y a encore du boulot à faire. Et donc, l'âge d'or, il est devant, il est à construire. Donc ça, je trouve que c'est important de le noter. Pour notre être aussi, on est un être en évolution, et donc on est appelé à aller vers le mieux. Alors vous allez dire... Bon, à mon âge, déjà, on commence à s'accrocher aux branches, si vous voulez, physiquement. Mais au point de vue, je pense, à d'autres points de vue, on peut continuer à nettement progresser. Moi, les personnes les plus humaines que j'ai vues, c'est des personnes qui étaient déjà un peu âgées. J'allais dire, je ne sais pas, si on me demandait un exemple, je dirais Sœur Emmanuelle. Moi, je suis un grand fan de Sœur Emmanuelle. Elle était, j'allais dire, à la fin de sa vie, je ne sais pas quel âge elle avait, peut-être 90 ans, je ne sais pas quoi. Elle était plutôt au top de l'humanité, je trouve, même si elle n'était pas peut-être capable de battre le record du 100 mètres en moins de 10 secondes. Alors, ça aussi, il y a quelque chose qui se dit là. On veut un Dieu. Le monde est ciel et terre. Ça nous dit que finalement, nous pouvons avoir une vision de notre être, de notre corps aussi, hein, qui est un monde, pas simplement matérialiste et pas simplement spiritualiste. C'est par rapport à ce que tu disais, le projet, c'est pas de devenir 100% pur ciel, quoi. Notre monde, nous ne sommes pas du ciel, nous ne sommes pas de la terre, tu disais, nous ne sommes pas du ciel non plus. Nous sommes des deux, et donc cette humanité qui est en tension, finalement, avec ces deux dimensions, c'est la difficulté, peut-être, de l'humain et son extraordinaire richesse. La deuxième, c'est que nous sommes en évolution. Dieu est source de nouveautés, de création là-dedans, et donc on est dans cette mouvance, finalement, dans cette croissance que peut connaître l'enfant, finalement. Le Christ nous appelle à nous reconnaître comme des enfants, parce que nous sommes en genèse, en fait, comme ça, et donc c'est inconfortable, évidemment, d'ajouter, j'allais dire, des couches, en particulier la dernière couche, qui est celle de l'humanité, et recevoir... quelque chose qui nous fait à l'image de Dieu et qui reçoit une vocation, finalement, donc à être à l'image de ce Dieu qu'on voit ici, donc un Dieu qui est source de commencement, qui est source de vraie nouveauté, un Dieu qui se rend présent, qui n'a pas peur de salir, j'allais dire, les mains en mettant les mains dans le cambouis, en se rendant présent sur le chaos du monde, un Dieu qui commence par... une mise en lumière, qui est évidemment donc une lumière spirituelle, puisque comme le disait Jérôme, il n'y avait pas encore de lampions. Donc ce n'est pas la fête des lampions, c'est en premier, par la parole, essayer d'injecter du sens, d'injecter de l'intelligibilité, et de l'injecter non pas finalement par la violence, mais par la parole. Là, il y a quelque chose, je pense, de polémique quand même aussi, parce que Le verbe bara, donc créer, qui est ici, le verbe de la création, c'est réservé à Dieu, en fait. Ce verbe est quand même assez rare, rarement employé dans la Bible, et pratiquement toujours, je pense, toujours réservé à Dieu. Donc, le texte biblique ne va pas jusqu'à nous donner, nous rendre sujet du bara, mais je pense que quand on nous dit qu'on est créé à l'image de Dieu, c'est ça qui est en cause, être source de vraies nouveautés, et pas simplement être l'effet de multiples causes qui nous ont précédés. Alors, il y a un autre verbe créé, qui est simplement le verbe faire, qu'on voit de temps en temps. Hein, Dieu, de temps en temps, au lieu de créer, il fait là-dedans. Il y en a Dieu fit, le firmament, vous voyez. Donc, c'est le verbe faire. Le verbe faire est beaucoup plus large, beaucoup plus général. Ce n'est pas très compromettant. Donc, Dieu y fait avec des vrais actes de création, donc d'une nouveauté, de créativité personnelle. Et puis, il y a d'autres endroits où Dieu façonne, ou modèle, ou je ne sais pas quoi. C'est un troisième mot, finalement, qui est yatsar, qui est vraiment le mot de l'artisan. Il fait en modelant, je crois, un peu comme l'argile, mais c'est dans le chapitre 2, peut-être.
Oui.
Donc ça, c'est un geste d'artisan. Mais l'artisan, quand il modèle, si vous voulez, avec ses mains, il le fait par la violence. Il impose avec ses mains, par la force, une forme à l'argile qu'il a entre les mains. Et donc là, il y a une... quelque chose, il y a un Dieu très puissant qui se manifeste. Mais dans le début, quand Dieu fait la lumière, finalement, il crée la lumière, hein, c'est ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... qui est une vraie source de nouveauté. Et donc, ça nous appelle, oui, je pense, à être source d'une créativité personnelle, mais par la parole, c'est-à-dire par, pas par la force comme l'artisan, mais par la parole comme l'éducateur peut-être. Parce que la parole, Dieu dit que la lumière soit. Bon, la lumière fut, mais la lumière fut parce que, dans le meilleur des cas, j'allais dire, est-ce que c'est toujours comme ça pour nous? Ben non, je veux dire, Dieu parle que la lumière soit, et puis ça patine un peu dans la semoule, si vous voulez. C'est parce que la parole, c'est le propre de la parole. C'est proposé, c'est entendu, pas entendu, c'est compris, pas compris, c'est accepté, pas accepté. Ça se négocie de la parole, si vous voulez. Alors que l'argile ne peut pas négocier par rapport à la main du potier. Il finit par prendre sa forme, hein, normalement. Donc il y a une chose là qui est polémique, je pense, dans cette façon douce de créer. Alors c'est une description de la manière dont Dieu agit. C'est aussi en creux, j'allais dire, une deuxième source de mal dans du monde qui est créé. Parce que le problème, c'est que quand on passe de l'original babylonien, qui est exactement la même chose, en fait, hein, c'est pratiquement la même chose, avec un Dieu bon et un Dieu méchant, un Dieu qui crée, un Dieu qui détricote par derrière, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait du mal? Donc là, mine de rien, dans les premiers versets, il y a déjà le mal par le chaos, c'est le mal sans but ni cause, typiquement, c'est le cancer de l'enfant, par exemple. Il n'y a aucune cause particulière, sauf s'il y a eu un Hiroshima par là, d'accord. Mais non, simplement, normalement, c'est simplement du hasard, du désordre. C'est le tsunami qui passe, et voilà. Et la deuxième cause, ben, c'est que Dieu crée avec sa parole, et que la parole, ben, en fait, c'est une façon faible de créer. Ça laisse la place à la négation de la parole. C'est ce que tu disais, et c'est ce qui est mis en scène dans la suite, mais... ça laisse la place finalement au péché, j'allais dire. C'est ça. Et donc finalement, c'est les deux grandes causes, j'allais dire, qui viennent remplacer le Dieu méchant. Il y a le mal chaotique, et nous sommes appelés à travailler par des actes de vraie créativité, de nouveauté, face à ça, pour faire reculer, pour mettre en ordre, pour appeler les ténèbres ténèbres et le jour jour, en appelant un chat, déjà, si vous voulez... C'est déjà un vrai acte de création que d'appeler un chat, de discerner d'abord qu'un chat n'est pas un chien, et puis qu'un chat est un chat et un chien est un chien. C'est déjà une vraie intelligibilité, une mise en lumière. Donc c'est la première, voilà, premier acte de création qui nous est proposé, premier acte de se ranger du côté, enfin, en faisant équipe avec Dieu, et le deuxième, ben, effectivement, c'est en écoutant la voie du bien, la voie de la lumière, la voie de la créativité de Dieu, et puis en portant des paroles qui créent du bon, finalement. Et il y a là un appel, oui, je vais dire, à comprendre Dieu, mais aussi, il y a aussi une éthique qui est derrière, si vous voulez, une façon d'être au monde, une façon de créer, une façon d'avancer, une façon de choisir.
J'aime beaucoup l'idée du langage comme conception faible de créer, manière faible de créer. On parlait de l'ontologie faible dans les années 80, Gianni Vattimo, qui était un professeur de métaphysique, qui est toujours en vie d'ailleurs, disait que la foi chrétienne devait adopter une ontologie faible, c'est-à-dire une dogmatique faible. Et elle est d'autant plus faible que si j'en crois le texte, nous sommes actuellement dans le septième jour. Et nous sommes dans un septième jour interminable, même si nous attendons le huitième jour. Donc non seulement Dieu a parlé, mais il parle même plus. Donc c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que la création, effectivement, à partir de ce mal physique... chaotique qui existe et que rien ne peut réduire, non seulement Dieu lui donne de l'ordre par une parole qui est déjà faible, mais maintenant cette parole, puisque nous sommes dans le grand Shabbat, dans le grand repos de Dieu, cette parole elle n'est même plus audible, et c'est presque écrit noir sur blanc. C'est assez fantastique quand on y pense. Tu parlais de la dimension polémique du texte, et on va évidemment passer au chapitre 2, mais j'ai une question à te poser. J'ai travaillé insuffisamment ce texte dans la langue hébraïque pour être au clair là-dessus, mais lorsque, au verset 26, on dit « mâle et femelle, il les créa ». Vous voyez, on crée l'être humain. Et puis après, on nous précise, donc on est loin d'Adam et Ève, là, hein, « mâle et femelle, il les créa ». Alors, à la lumière de tout ce qu'on a pu entendre sur le gender, sur le genre, parce qu'on peut traduire masculin et féminin, il le créa. Donc cet être primordial, il est créé masculin, féminin, un peu comme l'androgyne de Platon, si vous voulez. Alors, c'est une lecture un peu tirée, hein, mais que l'on peut faire à partir de la langue hébraïque. Voilà, est-ce que tu as une idée là-dessus? De toute façon... traditionnellement, ce qu'on dit toujours, c'est que le chapitre 2 apporte un complément et donc un éclairage supplémentaire et un deuxième récit avec la création de l'homme puis de la femme. Mais voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Parce que moi, je sèche.
Moi, ce que je dirais, si vous voulez, c'est que l'homme, en fait, il y a marqué homme, mais c'est l'Adam. L'homme comme la femme est Adam, finalement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le début du chapitre 5. Hein. Il donna le nom d'Adam, le nom d'humain, aussi bien à l'homme qu'à la femme. C'est duré longtemps. On s'est demandé si la femme avait une âme. Donc, bonne nouvelle. Elle est humaine comme l'homme, quoi. En parité, égalité, si vous voulez. Et donc, là, moi, j'y verrais, si vous voulez, dans cette question-là. Je veux dire, c'est pas la théorie du genre qui est ici, mais... Je parle que l'humanité est plurielle, si vous voulez. L'humanité est plurielle de bien des façons. Et c'est ça dont on parle ici. C'est-à-dire que la première différence visible, c'est à la maternelle, c'est qu'on voit qu'il y a des garçons et qu'il y a des filles, si vous voulez. Ça, c'est quand même, je veux dire, parce qu'il y a un petit bout de chair qui dépasse ou il n'y en a pas. Et ça, bon, c'est une différence. Finalement, il n'y a que deux races humaines, j'allais dire. Il y a l'homme et la femme. Oui.
J'ai beaucoup vécu en Afrique et l'animisme dit que l'être humain naît avec les deux natures, jusqu'au moment de la circoncision pour les garçons et de l'excision pour les filles. Ce qui fait le drame de l'excision, qui est une affaire religieuse et donc extrêmement difficile à combattre de ce point de vue, parce qu'une fille excisée, jusqu'encore à ces derniers temps, ne pouvait pas se marier, non excisée, ne pouvait pas se marier parce que l'homme ne savait pas si elle était homme ou femme.
Oui,
donc, il fallait un marqueur culturel.
Cette dualité existe ailleurs que dans la Bible.
Alors, il y a beaucoup d'endroits où on dit que l'humain au début et Dieu en particulier était androgyne et puis que voilà, il y a une séparation, etc. Moi, j'y verrais plus, si vous voulez, parce que j'allais dire, faut se rappeler que Dieu fait le ciel et la terre. Donc, j'allais dire, au point de vue de la terre, au point de vue du corps, voilà, en général, c'est pas toujours le cas, mais on voit, j'allais dire, à la naissance, si c'est un garçon ou si c'est une fille. C'est pas toujours le cas, d'abord. Donc, déjà, il faut penser à ceux pour qui ce n'est pas le cas. Mais De toute façon, je pense qu'on parle, là, la différence est visible, donc il cite cela, mais l'humain, il est ciel et terre. Et donc, quand on parle ici, par exemple, du sexe, ou quand ensuite on dit « soyez féconds et prolifiques », remplissez la terre, dominez-la, je ne crois pas qu'on parle que de fécondité biologique. Parce que la fécondité, elle est ciel et terre. Et une nana comme la sœur Emmanuelle, je ne dirais pas qu'elle n'est pas féconde, qu'elle n'a pas multiplié. Pourtant, elle n'a pas pondu de gosses. Donc si vous voulez, je suis d'accord, moi, que faire des enfants, c'est un des projets absolument magnifiques que peut avoir l'humain, mais il y a d'autres lieux de fécondité possibles. Et donc je ne crois pas qu'il faille projeter ici... Voilà, l'être humain est mâle et femelle, il les créa, oui, donc il crée l'humanité mâle et femelle, c'est un fait. Plus largement, il la crée plurielle, et c'est ensemble que nous pouvons, personnellement et puis ensemble, que nous pouvons être féconds, prolifiques, en acceptant ce pluralisme de l'humanité pour faire corps. Justement, comme le propose l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, pour faire corps avec une grande diversité de membres. Et je trouve que la comparaison de Paul, mais c'est comme ici, c'est intéressant, si vous voulez, comme étant poétique. Il dit, bah oui, il y a des yeux, il y a des mains, il y a des pieds, et je veux dire, on a besoin de tout ça pour que ça marche. Pour que le corps puisse être corps, que le corps puisse voir, le corps puisse avancer, manger, vivre. Alors c'est une image pour la pluralité qui existe dans l'humanité, comme ici, on a un échantillon pour nous dire, finalement c'est en vous mettant ensemble qu'il y a une chance d'être fécond ensemble aussi, je crois. Donc, mais pas fécond simplement selon la terre, mais aussi fécond selon le ciel. Voilà. Et je crois qu'il ne faut pas faire une lecture matérialiste de ça, ni simplement donc avec la théorie du genre ou je ne sais quoi. C'est une autre question.
Il y a une dépense spirituelle, une amitié spirituelle, c'est souvent la même femme. La François de Sales,
les jeunes
de Chantal.
Oui, tout à fait. Oui, ça corrobore, bien sûr. Oui. Et on marie, les églises chrétiennes ont toujours marié des gens de 70 ans. J'ai marié, mon dernier mariage, ils avaient 70 ans. Donc on sait très bien que la fécondité se manifeste autrement. Il ne faut pas y voir une loi naturelle ou que sais-je. Voilà.
Et nous, dans les mariages, on n'oblige pas les gens à avoir le projet de la fécondité biologique. Ils ont un...
Oui. Allez-y.
Est-ce que ça ne peut pas être aussi ce que Jung appelle... animus et anima en chacun de nous, quoi. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a une féminin, dans la femme, il y a une
féminin. Là, ça rejoindrait le genre. C'est-à-dire qu'il y a les sexes et il y a les genres. Moi, je pense que le texte est ouvert. Hein. Les textes bibliques sont très riches. C'est une échappatoire, mais voilà, les rabbins en font une lecture infinie, quand même. Hein. C'est l'entretien infini avec le texte. On n'a jamais épuisé. Jamais on peut dire, nous on a une petite tendance un peu scientiste, on aimerait épuiser le sens du texte et dire voilà, ça s'arrête là, stop, nec plus ultra. Mais en fait, moi ça ne me choque pas cette lecture-là.
Avec peut-être donc tous les stéréotypes qui sont derrière l'image de l'homme et de la femme dans ce milieu. Voilà, donc il faut qu'il y ait une part peut-être de douceur et de tendresse et puis une part d'autorité peut-être dans le rapport à l'autre, dans le rapport à soi-même. Une part de passivité, d'accueil de ce que peut être l'autre autour et une part peut-être plus proactive pour, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, pour lui rentrer dedans. Mais oui, je crois qu'effectivement, il faut garder ces stéréotypes, non pas pour les reproduire dans notre façon de vivre notre société et notre rapport dans le couple, mais... pour accueillir ça comme poétique. C'est comme on voit le corbeau et le renard, ben on sait un peu ce que c'est qu'un corbeau, on sait un peu ce qu'est un renard, et donc quand on lit ça, ben ça nous est intelligible. Là, c'est pareil. Voilà, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est pour accueillir peut-être aussi ces différents modes d'être qui sont tous bons et bénis. Et à ce moment-là, comme dit saint Augustin, aime et fais ce que tu voudras, pourvu que tu aies dans le cœur cette racine qu'est l'amour, ce que tu vas choisir, soit de supporter, soit de contrer, soit de parler, soit de se taire, ça sera, si c'est enraciné dans l'amour, une bonne chose.
Alors, très rapidement, on va peut-être lire quand même le chapitre 2.
Ah, il y a une question de...
L'image et la ressemblance, c'est quoi la différence ? Dieu est fait à son image et à sa ressemblance. On dit quelquefois que l'homme père garde l'image de Dieu, mais perd sa ressemblance. C'est quoi les...
C'est une figure, vous savez, on appelle ça un endiadine. C'est une figure de style où on dit deux fois la même chose. Comme lorsqu'on dit « je l'ai vu en chair et en os », par exemple. Alors, la langue hébraïque aime beaucoup les endiadines, où on dit deux fois. Mais j'imagine que, voilà, un rabbin, dans le Talmud, dira que, évidemment, c'est pas la même chose. C'est ces distinguos-là qui sont géniaux. Mais moi, je sais pas, je...
Mais ça, c'est vrai, je crois, mais c'est pas selon le péché originel.
C'est très luthérien, ça.
C'est pas selon le péché originel, parce que ici, on voit le projet de Dieu, c'est de créer à l'image et à la ressemblance. Et puis ensuite, quand Dieu le fait, il n'y a plus que l'image. Et donc, la ressemblance manque ici, dans le verset ici. Hein. Donc, à mon avis, c'est vraiment fait pour. Hein.
Ah oui.
C'est fait pour de dire, je dirais que l'être humain, il est créé. C'est quoi l'image de Dieu ? C'est l'image du Dieu. Alors on voit le Dieu ici, puisqu'on en a une photo, si vous voulez. Donc l'image de Dieu. D'ailleurs, à mon avis, l'image est un peu floue parce que Dieu est toujours en mouvement, si vous voulez. Donc on a du mal à en faire une photo bien nette. Mais ici, c'est le Dieu qui est source de nouveauté. C'est le Dieu qui voit ce qui est bon. C'est le Dieu qui fait des projets et qui agit. C'est un Dieu qui accepte d'agir pour une fois au nous. Et pas simplement au jeu tout court. Nous faisons l'homme à notre image, à mon avis, c'est pas, je n'irai pas faire une psychanalyse de la Trinité en se disant si Dieu est nous, si les relations plurielles, je ne sais pas quoi. Non, je pense que c'est l'homme, c'est Dieu qui dit à l'homme, si tu veux, ensemble, toi et moi, nous pourrons créer un homme qui n'est pas seulement à la ressemblance, mais à la ressemblance et l'image. Et pour donner des exemples, si vous voulez, un type comme... Bon, ça mérite un point Goldwyn, je suis d'accord, mais un type comme Hitler, il est manifestement, il a des capacités hors normes, pas de chance, il les met au service du meurtre et de la destruction et de la haine. Donc, dans un sens, il a de l'image de Dieu parce qu'il a un pouvoir de créativité non négligeable. Le manque de chance, c'est que c'est pas tout à fait dans le sens où Dieu l'entend, quoi. C'est pas pour créer du très bon, c'est pour créer du très mauvais. Donc je crois que le hiatus entre, c'est-à-dire que oui, l'image c'est toute cette créativité, cette liberté, cette façon de créer, hein, et puis la ressemblance, c'est ensuite en harmonie, en pas simplement scotché à Dieu, mais en harmonie avec cette création du très bon, quoi.
C'est de pouvoir dire cela est bon.
C'est pouvoir dire et que Dieu, voyant ce qu'on a fait, puisse dire chapeau, c'est du bon.
Et par contre, à contrario, il faut avoir un petit gabarit, avoir une petite ressemblance et avoir une petite image et avoir une grande ressemblance.
C'est oui, tout à fait, c'est génial. Oui. C'est génial, voilà. Et oui, tout à fait. Oui. Vous avez raison de dire petit et grand, c'est une notion qu'on a peut-être oubliée et qui est quand même très biblique. On voit Jésus, il y a petit et des grands dans le royaume des cieux. Et donc nous pouvons effectivement ne pas juger simplement en c'est à la ressemblance, c'est pas à la ressemblance, c'est à l'image, c'est pas à l'image, mais c'est un peu à l'image, c'est un peu à la ressemblance ou c'est pas du tout à la ressemblance et peut-être noté comme dans les soins à l'hôpital. Vous savez, ils vous disent entre 0 et 10, vous avez mal comment ? C'est pas juste mal, pas mal. C'est... Là, c'est pareil. On peut se dire, est-ce que ça, sur le degré image et le degré ressemblance, alors qu'il peut y avoir un travail sur la création de l'homme que je suis, de l'Adam que je suis, ou la création de l'Église dont je rêve, la création du peuple dont j'aimerais, la création de l'humanité, la création de ce monde aussi, qui soit dans ce projet de Dieu.
Le... On peut avoir de très petites capacités au départ, être très limité humainement, et donc l'image de Dieu affaiblie, et puis avoir une créativité
Ben voilà, oui, absolument, oui, oui, tout à fait.
Puis la distinction des deux permet de dire effectivement qu'on a perdu aussi l'icône, c'est-à-dire que Dieu, on ne le voit pas, mais ça maintient quand même une relation d'analogie entre l'homme et Dieu, donc il y a une continuité plus qu'une rupture. Ça, c'est important. Je pensais aussi les médiévaux, dans une certaine tradition augustinienne, donc occidentale, parlent quelquefois du monde, au sens mondain, justement, le monde qui s'éloigne de Dieu, comme la région de dissemblance. On trouve ça dans les hymnes grégoriennes, la région de dissemblance. Et cette tradition augustinienne, portée à son paroxysme et dans sa plus grande radicalité, on la trouve quand même dans un certain luthéranisme, l'idée que le péché originel a brisé l'image et la ressemblance. Et que donc, pour la retrouver, on ne peut la retrouver que par grâce. Mais c'est assez beau, là, cette vision assez tragique, mais
c'est tragique,
qui ne manque pas de
Moi, je ne m'associerai pas. Je ne sais pas si on a perdu l'image de Dieu ou si on y a encore accès qu'insuffisamment, j'allais dire. C'est plutôt, là encore, c'est plutôt en... L'âge d'or est devant plutôt que derrière. Ça peut être derrière au sens où on peut effectivement se déconvertir, on peut tourner le dos au bien avec des accidents, avec des choix personnels. Mais ça peut arriver effectivement qu'on perde l'image de Dieu ou qu'on perde la volonté, j'allais dire, d'avoir cette ressemblance. Mais en général, c'est pas le seul problème. Le vrai seul problème, c'est plutôt qu'on est... tiré du sol, comme on va peut-être le voir si on a le temps de lire ce chapitre 2, mais on est tiré du sol, on est dans cette genèse. Je ne crois pas qu'on soit au septième jour. On est sur tous les jours en parallèle. Cette lumière du premier jour, on est encore en train d'essayer de s'ouvrir à cette lumière et d'entendre cette parole que la lumière soit. On est dans la création de notre corps aussi, du vivant, du vrai vivant. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Bien sûr que non, d'autant plus que dans notre histoire personnelle, quand on est bébé, le bébé, il n'est pas dans l'image de Dieu. J'allais dire, il a peu de capacité de créativité, il est encore très égocentré, c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir. Il est encore dans cette genèse, et il faut toute une vie pour la vivre.
Mais le texte 2 ne prend au sérieux quand même cette nostalgie. Vous savez, Camus disait que toute pensée humaine est toujours nostalgie, même quand elle s'en cache. On a souvent trop parlé du péché de nostalgie, on culpabilise le nostalgique, mais enfin, l'être humain est nostalgique, il y a quelque chose, il y a un régressus ad uterum Donc cette dimension, elle est présente dans le chapitre 2. Avec l'Éden. Je ne sais plus ce que veut dire Éden. Il se trouve qu'il y a une ambivalence parce qu'en hébreu, ça peut vouloir dire plaisir, délice, d'où le fameux jardin des délices de Jérôme Bosch, etc. Mais il semblerait que le mot à l'origine, il semblerait que ce soit un jeu de mots. Et que. Mais je vérifierai, j'avais justement essayé de trouver que dans les langues persanes, par exemple, ça désigne autre chose. D'ailleurs, le mot qui a donné paradeisos en grec, qu'on traduit par paradis, est lui-même d'origine persane. Ce n'est pas un mot grec pur. Donc, en tout cas, l'idée que cette nostalgie a son lieu source en Orient, c'est-à-dire là où le jour se lève, où la lumière naît, ça c'est assez classique. Hein, l'idée que soit l'âge d'or ou en tout cas le jardin des délices se trouve toujours plus à l'est. Voilà. On le lit rapidement, peut-être, parce que c'est très beau. Il y a une géographie
Et puis ça sera la conclusion.
Splendide. Guillaume, tu veux ?
Absolument. Le ciel et la terre et tous leurs éléments furent achevés.
Non. On l'avait joué. Voilà, c'est ça.
Le jour où le Seigneur fit la terre et le ciel, il n'y avait pas encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé. Car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais Un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur, Dieu, modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses marines l'haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui était bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, ils se partageaient pour former quatre bras. L'un d'eux s'appelait
Pishon.
C'est lui qui entoure tout le pays de Haoula, où se trouve l'or, et l'or de ce pays est bon, ainsi que le Gnoum et
le Bdellium, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs.
Et la terre de Nix. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. C'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle Tigre. Ça peut l'être. Il coule à l'Orient d'Assour. Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. Le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme qu'il pourra manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Le Seigneur dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui soit accordée. Le Seigneur modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme pour voir comment il la désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs, et pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs de sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. L'homme s'écria, « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Ainsi, l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils deviennent une seule chair hors du jardin d'Éden. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. »
Voilà, ils deviennent une seule chair, donc en hébreu, bassar. La chair, hein, c'est la substance musculaire, hein. C'est la viande. Hein. Il y a les os, la chair, il y a le sang. Le sang, c'est la vie pour un juif, donc c'est sacré. Un Kohen ne touche pas le sang, vous le savez, hein, au temple. On doit s'abstenir de toucher le sang, de manger des viandes qui ne sont pas étouffées, etc. Donc la chair, de façon métonymique, a fini par désigner l'homme et la condition humaine. Juste quelque chose avant qu'on se sépare, deux petites choses. Vous voyez que la formulation de la loi primordiale, l'interdit de Dieu, se fait avant la création de la femme. Donc voilà, Ève dédouanée pour toujours. Elle n'était pas là quand la loi a été proférée, puisque c'est un embryon de Torah, c'est la première loi. Elle n'est pas là. Donc après, il est possible qu'Adam lui ait dit... Mais voilà, je pense que c'est quand même important dans la chronologie de rappeler ce point. D'autre part, je voulais dire quelque chose d'autre, mais ça va me revenir.
Sinon, on pourrait dire que, si vous voulez, l'être humain, là, il est fait à partir de la poussière du sol. Donc là, on aurait un peu la terre. Il manque un peu, si vous voulez, la dimension vraiment céleste, parce qu'il n'y a pas marqué... L'esprit de vie, on pourrait attendre la ruach qui est au début, le souffle de Dieu qui plane sur les eaux, mais c'est pas le même mot en fait, c'est le mot respiration quoi. Et cette respiration, c'est pas le propre de l'humain, c'est on le voit dans le récit du déluge, il y a marqué pour dire tous les animaux, tout ce qui respire avec ce même mot respiration, ben, c'est toutes les bêtes qui respirent quoi, voilà. Donc on est Vraiment, un animal, on est modelé avec la poussière du sol, avec des atomes, quoi. Et puis avec quelque chose qui fait qu'on respire, qu'on est vivant, et l'homme devint un être vivant. Alors, ça peut être traduit des fois par âme vivante, parce que ce mot être, c'est ce que, assez perfidement, j'allais dire, nos traductions traduisent par âme, pour retomber sur les pattes du platonisme dont parlait Jérôme. C'est nefesh, non, c'est effectivement, c'est l'être, c'est la personne, c'est l'être, en fait, voilà. Et vivant, bah oui, vivant. Vivant, c'est-à-dire capable de se mouvoir, capable de respirer. Et c'est ça, finalement, qui est le propre de l'humain. Alors, effectivement, tu disais, il y a le mot bassard, c'est le mot chair. Ce qui est d'ailleurs rigolo, c'est que ça, c'est intéressant pour lire, pour nous qui sont fans de l'évangile, c'est que bassard, c'est à la fois la chair et à la fois l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, ça veut dire lourd, si vous voulez, sur le passage de Jean 6 où on dit, Jésus dit, c'est ma chair, mangez ma chair, buvez mon sang. Manger ma chair, c'est vraiment manger mon évangile, finalement, ma bonne nouvelle. Mais là, la chair, c'est comme tu dis, c'est la viande. En même temps, ils n'ont pas de mot pour dire le corps, si ce n'est de dire la chair. Sauf quand le corps est plus vivant, ça devient, à ce moment-là, il y a un mot spécial pour dire le cadavre, quoi. Donc en fait, on est soit, le mot corps en hébreu, c'est soit la chair, soit le cadavre s'il est mort, voilà. Donc on est une chair, on est un fait d'atomes et puis de ce souffle de vie, cette capacité de se mouvoir. Donc ça c'est la première, c'est une vision, j'allais dire, beaucoup plus terrestre de l'humain, moins, alors que le premier avec cette image de Dieu, avec cet esprit de Dieu qui plane sur les eaux, il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel, j'allais dire. Spirituel sans oublier le côté matériel. C'est une anthropologie, j'allais dire, beaucoup plus proche de l'évangile, peut-être, que la deuxième version, deuxième témoignage. Alors sinon, je vois dans les quatre fleuves qui arrosent la terre entière, venant du paradis, c'est que voilà, le monde entier, finalement, est aimé et irrigué par Dieu avec cette bénédiction, finalement. Et ça dit quelque chose de l'amour de Dieu pour le monde tout entier, pour notre univers tout entier, dans ses multiples dimensions, dans les quatre coins finalement, dans toutes les dimensions de notre monde ici-bas.
Voilà, et vous voyez qu'il y a deux arbres, hein, on oublie quelquefois, il y a l'arbre de vie et qui est au centre, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu, d'ailleurs, après la chute, dira « Heureusement, ils n'ont pas touché l'arbre de vie, sinon ils seraient comme moi. » Il y a un passage comme ça que j'avais un peu oublié. Donc, il y a les deux arbres. Et l'objet, quand même, de la curiosité, hein, de la curiositas, presque au sens augustinien, donc de la convoitise et de l'impatience aussi, hein, le refus des médiations, en fait. Hein, c'est nous, quand même, ça. Les technologies, aujourd'hui, c'est vraiment le fruit aussi. Hein, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Internet... Dès que ça bug, dès que ça mouline, dès que ça rame, comme on dit. Voilà. Donc ce péché d'impatience est dirigé vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la capacité de l'homme, pour l'homme de diriger sa vie sans se référer finalement à une loi qui lui viendrait de quelqu'un d'autre. Donc cette indépendance totale, ce rêve d'indépendance totale, c'est intéressant parce que souvent le christianisme est présenté comme une émancipation de la loi. On est libéré de la Torah, mais on est sous la loi de l'esprit, on l'oublie. Donc la loi de l'esprit, c'est aussi... voilà, et je pense que le chrétien est toujours, pour reprendre ton idée que ces textes s'adressent à nous sans cesse, est aussi peut-être... en posture d'être tenté par une conception de la libération chrétienne qui serait une liberté pour soi, finalement. Parce qu'il y a bien une loi de l'esprit qui n'est plus la loi des observances et des mitzvot mosaïques, mais nous sommes encore soumis à une loi, mais cette loi, c'est l'esprit qui planait sur les eaux, qui la murmure à notre oreille.
Ben, où cette loi, c'est de ne pas se prendre pour Dieu parce qu'on n'est pas Dieu, en fait. Mais voilà. Je dirais que c'est ça, le péché originel. Ce n'est pas un péché originel, c'est le péché fondamental qui est celui de tous les humains, de vouloir être Dieu à la place de Dieu, je vais dire. Mais ce n'est pas vraiment que ça fâche Dieu ou que ça pourrisse l'humanité. C'est un problème simplement que, ben, on n'est pas Dieu et en se prenant pour Dieu, c'est quand même problématique. Je pense que c'est plus dysfonctionnel, finalement, que de fâcher Dieu. Je veux dire, ça n'a pas de sens d'imaginer un Dieu qui nous en voudrait à mort et de génération en génération pour un petit péché de gourmandise ou pour une petite rébellion contre lui. Parce que, je veux dire, il en verra d'autres au cours de l'histoire que de simplement de dire c'est défense d'attraper le pot de confiture et puis finalement on a trempé le doigt dedans. Oui, bon, ben, je veux dire, ça peut arriver. C'est pas que ce soit bon, mais non plus, je veux dire, la maman n'est pas fâchée à mort contre son enfant quand ça arrive. Parce que, bon, je veux dire, on sait ce que c'est que la gourmandise, on y a tous péché. Mais bon, voilà. Donc c'est pas ça dont on parle, évidemment, c'est pas du passé dont on parle, encore une fois, c'est comme tu dis, c'est le péché fondamental.
Vouloir se substituer à Dieu et être comme un Dieu. Oui. Alors, la fois voilà. Prochaine...
Je voudrais qu'on explique ah. Cette histoire. Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été créée. Je ne comprends pas bien. Comment on l'appelle femme ? Qu'est-ce que c'est à l'origine le mot femme ?
Ah, oui. Alors, c'est pas.
C'est Isha, c'est à la pas, place de Ish, non ?
Oui, c'est Isha. Mais c'est pas Chaya, c'est pas Ève. Donc, on découvre après son nom. Alors que le mot Adama, le glaiseux, le cutéreux, hein, le terreux, le terrien, c'est le mot qui désigne l'homme. Mais en revanche, pour la femme, il y a la femme ou Chaya, la vivante. Ève, c'est une latinisation de Chaya. Pas très heureuse d'ailleurs. Voilà. Donc la fois prochaine, on se retrouve au temple.
La voix de toute chair avec psaume 8, Ecclésiaste, et puis un petit morceau de la première lettre de Pierre.
The Way of All Flesh, c'est le nom d'un roman d'ailleurs.
Mercredi 18 novembre, vous l'avez sur votre petite voilà. Feuille qui a été distribuée.
Très bonne soirée.
Bonne soirée, merci
beaucoup. Bonne fête de la Toussaint d'ici là.
Merci.